Vous écoutez le français sur Radio SPS.
Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série sur l'histoire de l'Australie. Aujourd'hui, on va parler de diplomatie, en tout cas de la forme que parfois la diplomatie peut prendre. On appelle ça le soft power. C'est par exemple ce que font les États-Unis à travers Hollywood et les films qu'ils diffusent à travers le monde entier. Il y a aussi une autre forme de soft power qui consiste à mettre en avant les animaux typiques de certains pays. La Chine pratique ainsi encore très régulièrement ce qu'on appelle la diplomatie du panda. Et vous vous en doutez, l'Australie, avec une faune aussi incroyable et surtout aussi unique que celle qu'on trouve en Australie, si également adonnée par le passé. C'est ce qu'on a appelé la diplomatie de l'ornithorynque. Alors, comme d'habitude, pour en parler avec nous, nous retrouvons l'historien Romain Fati. Bonjour Romain.
Bonjour Grégory et bonjour chers auditeurs.
Alors, pour parler de cette histoire, on va revenir à la première moitié du XXe siècle, au tournant des années 40. Avant qu'on rentre dans les détails de comment l'Australie a pratiqué cette forme de diplomatie animalière, je voulais vous demander de façon un petit peu générale, depuis quand ça existe le fait de donner des animaux typiques de tel ou tel pays à d'autres nations, et est-ce que c'est efficace comme forme de diplomatie ?
Alors, ça existe depuis très très longtemps. Alors, l'historien n'aime vraiment pas la phrase de tout temps, mais enfin, depuis qu'on peut documenter l'existence de royaumes ou de sociétés installées, cette diplomatie animalière a eu lieu. Parmi les exemples documentés assez lointains, on a celui d'une girafe, à peu près 1500 ans avant notre ère, hein, quand même, d'un don d'une pharaone pour un roi de Syrie, de mémoire. Plus proche de nous, Charlemagne, qui avait reçu un éléphant d'Inde envoyé par les Abyssides, donc ce qui est aujourd'hui le Moyen-Orient, des califats. Vous imaginez un éléphant avec sa chapelle dans la capitale impériale. Et en réponse, hein, bien sûr, Charlemagne avait envoyé de très beaux chiens de chasse pour faire honneur au sultan. Donc, par là, je veux dire que la diplomatie animalière, c'est-à-dire envoyer des animaux représentatifs de chez vous pour une offrande, comme, disons, pour signaler la bienveillance que vous avez vis-à-vis d'un autre roi, reine, empereur, chef d'État, ça existe depuis très longtemps. Et ça se fait encore. Hein. Certains d'entre vous se souviendront de l'affaire de la Kalteke, qui est un cheval assez rare, qui avait été envoyé par le Turkménistan au président François Mitterrand, je crois que ça doit être 93 ou 94. Donc ça se pratique, parce que c'est montrer à la fois faire plaisir à l'autre, mais aussi bénéficier d'une certaine empathie ou d'une certaine bienveillance culturelle de la part à la fois du souverain ou du chef d'État, mais surtout de la population, parce qu'il s'agit là d'animaux exotiques. Donc depuis très très longtemps, vous avez des caravanes qui échangeaient des animaux d'un continent à un autre, ça c'est très connu. L'échange d'animaux exotiques aujourd'hui est très, comment dirais-je, réglementé. Mais offrir, faire de la diplomatie animalière, ça se fait depuis des milliers et des milliers d'années.
Ok. Alors, donc, dans cette très longue histoire, l'Australie a également eu un rôle à jouer. On rappelle évidemment que lorsque la colonisation commence en Australie très tôt, eh bien, on ramène justement ces animaux étranges qu'on n'a jamais vus avant. Les kangourous, les koalas, les cygnes noirs, s'il y en a en Europe, c'est justement parce qu'ils ont été ramenés à cette époque. Mais vraiment, l'animal le plus étrange de tous, typiquement australien, c'est l'ornithorynque. D'ailleurs, on a mis très longtemps à savoir dans quelle case le classer. Est-ce que c'est un oiseau ? Est-ce que c'est un mammifère ? Ça a posé beaucoup de questions. Et donc, les premiers explorateurs, il y en a beaucoup qui ont voulu les ramener pour les montrer en Europe. Sauf que sur les nombreux ornithorynques qui ont été emmenés, en fait, il y en a très très peu qui sont arrivés vivants.
Oui, alors je vais redécoudre un peu ce que vous nous avez très bien raconté. J'ai un exemple d'un cacatoès qui est dessiné dans un tableau roi des Pays-Bas au XVIe siècle, ce qui paraît absolument improbable, puisque la colonisation britannique commence en 1770 et officiellement en 1788 avec la première flotte. Mais en fait, vous aviez des tribus indonésiennes qui commerçaient aussi avec les aborigènes dans le nord, et les animaux déjà voyageaient bien avant la période coloniale. Pour la période coloniale, effectivement, quand les explorateurs arrivent, hein, au début, vous avez beaucoup de missions scientifiques. On est dans la dernière phase de colonisation, après, comment dirais-je, les Amériques du Sud, après l'Afrique et des colonisations absolument brutales et dévastatrices pour les populations locales, les puissances européennes se jettent dans la course à qui va grappiller les confettis du Pacifique. Et en l'occurrence, il y en a une grosse, c'est Terra Australis. Et ça se fait sous couvert d'expéditions scientifiques. Alors, observer le passage de Vénus, etc. Et vous avez tout un tas de naturalistes qui rejoignent à bord les capitaines qui sont en charge d'aller découvrir et prendre possession de ce qui pourrait être de futures nouvelles colonies. Et ce qui est intéressant, c'est quand vous regardez les dessins des premiers naturalistes, l'Australie ayant été coupée du reste du monde depuis des millions, des centaines de millions d'années en réalité, elle a développé une faune et une flore que l'on sait qui est totalement différente du reste du monde. C'est bien qu'en fait, on est à un moment de grande, vous savez, la découverte naturaliste, mais aussi le classement, hein, classé dans des herbiers, classé dans des catalogues, etc. Et alors, ils ont beaucoup de mal à savoir qui appartient où. Vous avez les premiers dessins de kangourous, en fait, ils ne savent pas trop comment faire, ça ressemble à une tête de rat, enfin, ils essayent de calquer les animaux européens qu'ils connaissent comme ayant eu des déformations que serait devenu, voilà. Donc, l'ornithorynque fait partie des animaux les plus mythiques dans le genre d'animaux bizarres australiens, parce qu'en fait, c'est un bec de canard, mais ça a un espèce de petit corps de loutre avec une queue de castor. Et puis, c'est un mammifère, mais il pond des œufs. Alors, où est-ce que vous le classez? Et c'est un animal tout à fait intrigant non seulement assez mignon, mais il n'est comme aucun autre animal à la surface de la Terre. Et donc, très rapidement, on est intéressé pour le montrer. Parce que les animaux, non seulement en termes de diplomatie animalière, mais en termes de connaissances scientifiques, une nation est valorisée par ses connaissances scientifiques au XVIIIe, XIXe siècle. Il est donc très important de pouvoir saisir ces spécimens et de les montrer. C'est aussi un signe de pouvoir et de richesse. Donc, ramener des animaux exotiques, que ce soit pour la reine Victoria ou que ce soit pour l'impératrice Joséphine, hein, dans le cas de la France, où il y a tout un petit zoo qui est créé pour son Altesse impériale. C'est un signe de pouvoir, mais aussi un signe de puissance scientifique. Les ornithorynques, comme vous l'avez rappelé, sont capturés assez tôt, comme tout un tas d'autres animaux, que ce soit des koalas, que ce soit des kangourous, pour être ramenés. Cependant, la problématique avec l'ornithorynque, c'est que, un, il se reproduit très, 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 très mal, c'est quasiment impossible, en fait, en captivité, et que, par ailleurs, il a des besoins, non seulement en termes de nourriture, mais en termes d'écosystèmes qui sont difficilement reproductibles. Un koala de région froide, ou alors encore mieux, un kangourou de région froide en Australie, peut finalement assez facilement s'adapter à l'Europe. Alors, je reviens sur ce que je viens de dire. Le kangourou, oui, le koala, beaucoup moins, parce que si vous n'avez pas d'eucalyptus, vous ne pouvez pas le nourrir. Enfin, les eucalyptus, vous pouvez les faire pousser en Europe et ailleurs dans le monde.
Mais, comme vous le disiez, effectivement, l'ornithorynque, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Alors, on va avancer un petit peu dans le temps. On arrive à la Deuxième Guerre mondiale et il y a un Européen qui aimerait beaucoup avoir un ornithorynque. On se demande pourquoi, d'ailleurs, ça n'est pas précisé. C'est le Premier ministre britannique de l'époque, Winston Churchill. Et l'Australie décide d'accepter et de lancer une expédition visant à ramener vivant un ornithorynque jusqu'au Premier ministre britannique à Londres. Alors, la première question, sachant qu'à ce moment-là, les relations entre les deux pays ne sont pas vraiment au beau fixe, qu'espère tirer l'Australie de ce geste à l'égard du Premier ministre britannique? Et puis ensuite, eh bien, on va voir effectivement comment tout ça s'est déroulé. Mais d'abord, qu'attend l'Australie de ce geste?
Je vais répondre à votre première question, parce que vous avez dit, et très justement, on ne sait pas pourquoi il était intéressé. Mais Winston Churchill est intéressé parce que c'est un grand aristocrate, c'est un ancien combattant, hein, c'est un impérialiste surtout. C'est quelqu'un qui s'est battu en Inde, qui s'est battu au Soudan, qui a été correspondant de guerre, à Cuba, puis après dans la Seconde Guerre des Boers. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup bourlingué, avec beaucoup d'argent, beaucoup de statut social, et comme tout bon aristocrate, il aime bien collectionner. Lui, en l'occurrence, une de ses passions, à part la boisson, on le sait, ce sont les animaux exotiques. Encore une fois, parce que c'est un signe de pouvoir. Je veux dire, avoir des lions dans les années 40, c'est pas la même chose que d'avoir accès à un lion aujourd'hui. Bon, ça reste quand même extraordinaire, mais il y a une difficulté supplémentaire dans ces années-là. Et c'est un collectionneur d'animaux exotiques. On lui a offert au cours de sa carrière politique de nombreux animaux. Certains sont retrouvés au zoo à Londres. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui a un intérêt pour ça parce que ça correspond non seulement à sa classe, à son rang, à sa conception de l'empire également, et puis parce que très clairement ça l'amuse et qu'il aime bien les animaux. Donc ça c'est la première réponse. La seconde. Question que vous m'avez posée par rapport à l'Australie en 1943. Oui, on sait bien que les Australiens sont des Britanniques qui ont été déportés, puis après vous avez la Fédération de l'Australie en 1901, donc l'Australie a son propre Parlement fédéral, mais pendant assez longtemps, la sécurité australienne est assurée par la Grande-Bretagne. Hein, ces décisions sont prises à Londres, au cabinet de guerre, et l'Australie est défendue par les Britanniques. Ça, il les aide pendant la Première Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, vous avez ce qu'on appelle la stratégie de Singapour, à savoir que en cas de guerre, et donc ben, on y est, la Grande-Bretagne, via la Royal Navy, devrait assurer la défense de l'Australie. Sauf que la déferlante impériale japonaise, on pouvait peut-être se prédire, mais pas s'imaginer en termes d'échelle, est accéléré et se propage à une vitesse dans l'Asie Pacifique que le commandement britannique n'aurait su envisager. Et par ailleurs, 41, 42, eh ben oui, ben vous avez aussi Hitler, vous avez aussi Mussolini et puis Staline avant qu'il change de côté. Donc les Anglais se disent il faut qu'on rapatrie notre flotte de Singapour puisque la protection de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, d'autres dominions se fait depuis ce point fort qu'est Singapour. Singapour est prise par les Japonais, elle chute, les Australiens se retrouvent tout nus, complètement nus, quasiment sans défense, avec une grande partie de leur armée qui est en Europe ou au Moyen-Orient, et ils ont la peur de l'invasion japonaise. Alors, ce qu'on appelle le call to America, ils se tournent vers l'Amérique, hein, ce qui explique beaucoup la relation aujourd'hui qu'on peut observer, pour que les Américains viennent utiliser l'Australie comme base arrière. Hein. Grosso modo, vous avez à peu près 2 millions d'Américains qui sont stationnés là pendant quelques années. Et là où on retrouve notre ornithorynque, c'est essayer de rétablir des relations de bonne volonté. Vous avez Winston Churchill qui annonce au ministre australien des Affaires étrangères, à l'époque le docteur Evatt, qui plus tard fera partie des personnes qui ont rédigé la Déclaration universelle des droits de l'homme à l'ONU. Bref, Evatt, on lui demande, Churchill lui demande un ornithorynque. Ça lui plairait. Il en a envie plusieurs d'ailleurs. Et alors, on est déjà à une époque où les conservationnistes, en fait, essaient quand même de minimiser la destruction des espèces dites en danger, parce que la colonisation n'a pas aidé avec les renards, etc., tous les prédateurs que nous avons, enfin que les Blancs ont importés dans ce pays. Et Evatt dit, bon, bah, OK, on va lancer une expédition, on va essayer d'aller chercher un ornithorynque pour le Premier ministre britannique, en espérant s'attirer quelques faveurs. Et puis, si l'histoire se passe bien, c'est quelque chose qui sera apprécié des Australiens, si ça se passe bien.
Et c'est loin d'être gagné d'avance, puisque on a dit tout à l'heure, les ornithorynques sont quand même des animaux particulièrement fragiles. Et là, on envisage d'en faire traverser un toute la planète en bateau, en plein milieu de la Deuxième Guerre mondiale. C'est complètement fou, en fait, comme projet.
Oui, ça paraît ahurissant. Et en fait, moi, je me suis posé une question, je n'ai pas réussi à trouver la réponse. 43, il y a les avions. Pourquoi aller s'embêter à faire voyager un ornithorynque sur 45 jours, je crois, 50 jours, donc un mois et demi, par bateau, alors que finalement, en à peu près 48 à 72 heures, il aurait pu rejoindre la Grande-Bretagne. Alors, je n'ai pas de réponse. Elle est peut-être dans l'installation, en fait, qui était nécessaire. C'est-à-dire qu'effectivement, on est en 43. Et 43, on ne sait pas là où ça va tourner, hein. On ne sait pas encore ce qui va se passer. Les Américains s'en prennent plein la figure avec les Japonais dans le Pacifique. Donc, vous imaginez, il faut que le bateau quitte une zone qui est partiellement sous contrôle japonais pour aller traverser l'océan, donc une partie du Pacifique, une partie de l'océan Indien, passer le canal de Suez, effectivement sous surveillance britannique, mais la Méditerranée est infestée de sous-marins allemands, enfin nazis, et puis fasciste chez les Italiens, passer par l'Atlantique, lui aussi infesté de sous-marins britanniques, sous-marins allemands. Donc, on fait courir quand même beaucoup de risques à ces hommes qui montent à bord du bateau pour escorter cet ornithorynque. Et alors, pour que justement ce passage se passe dans les meilleures conditions, on lui crée une sorte de vivarium géant pour qu'il puisse dormir, nager. C'est un animal qui vit en grande partie dans l'eau, donc il faut de l'eau fraîche. Et puis des réserves de nourriture abondantes. Sauf que quand on collecte, alors je crois qu'ils avaient amassé plus de 50 000 vers pour nourrir le petit ornithorynque avec quelques œufs également. Le problème, c'est que les vers meurent en cours de route. Donc en fait, en termes logistiques, c'est très très compliqué de déplacer un animal qui pourtant est petit, qui a des exigences alimentaires compliquées et un métabolisme et un style de vie très difficile à reproduire. Un lion, tant qu'il est à peu près chaud et vous lui donnez de la viande, a priori, ça passe. J'exagère. Mais alors, un ornithorynque, en réalité, reproduire ses conditions de vie, c'est extrêmement, extrêmement compliqué. Un peu comme les poissons exotiques, par exemple, ou l'osmose de l'eau, etc., la chaleur. Tout ça demande énormément d'attention. Et vous avez un monsieur dont c'est le travail d'accompagner cet ornithorynque. Et il prend des notes tous les jours sur ce qui se passe, ce que l'ornithorynque a mangé, la température de l'eau, de l'air, etc.
Et malheureusement, malgré tous ces moyens mis en œuvre pour s'assurer d'une bonne traversée, ce petit ornithorynque qui a été baptisé Winston est finalement retrouvé mort et on est seulement à quelques jours avant l'arrivée au port de Liverpool. Et ce décès, encore jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas précisément ce qu'il a déclenché.
Alors, généralement, c'est toujours l'option la plus simple, c'est-à-dire que, en fait, sortir un ornithorynque et le faire traverser le monde pendant 45 jours dans un bateau qui va changer de climat à plusieurs reprises, a priori, hein, je ne suis pas vétérinaire, mais ça ne semble pas une bonne idée. Alors, ce que les Britanniques ont... Au début, ça a été un peu caché, cette affaire, parce que si ça avait été un succès, évidemment que ça aurait été médiatisé, ne serait-ce que parce que voilà, les relations australo-britanniques, faire traverser un animal qui avait été encore peu reçu en Europe, etc. Là, en l'occurrence, c'est un échec. Donc, c'est un échec qu'on cache, puisque on a permis à quelqu'un de faire sortir un animal qui, théoriquement, ne doit pas sortir, que c'est un peu une faveur gouvernementale. Donc, ça a tout de suite pas... ça sent pas très bon. Et les Britanniques font courir le bruit que l'ornithorynque aurait été traumatisé par les bombardements, l'explosion d'un sous-marin allemand. Alors voilà, vous avez tout un tas de théories sur le pauvre ornithorynque qui serait mort de choc traumatique. Plus récemment, vous avez des étudiants de l'Université de Sydney qui ont eu accès à un certain nombre de documents qui sont conservés ici en Australie, dont le petit carnet, justement, de la personne qui était en charge de surveiller l'ornithorynque. Et en fait, on voit très clairement que les températures d'eau sont beaucoup, beaucoup, beaucoup trop chaudes. Quand vous passez le canal de Suez, c'est-à-dire que vous êtes sur un endroit qui est très chaud, hein, vous êtes bordé par l'Égypte d'un côté, l'eau du réservoir dans lequel était, enfin, une espèce d'aquarium géant qui avait été construit pour l'ornithorynque, a atteint, il semblerait, 27 degrés. Alors, des ornithorynques, pour vous donner une autre idée, sa vie, en Australie, vous en avez dans les Alpes australiennes, vous n'en avez pas loin de Canberra, hein, d'ailleurs, ce qui est un endroit effectivement chaud l'été, mais avec de l'eau froide qui vient des Alpes australiennes. Donc l'hiver, il fait très froid et l'été, l'eau demeure plutôt fraîche. 27 degrés, là, en fait, ils ont cuit leur nid-de-ranke, hein, tout simplement.
Ouais.
Donc, je peux pas vous le garantir, mais ayant eu des poissons quand j'étais jeune, ce qui n'a peu de rapport avec un ornithorynque, s'ils ne sont pas à la bonne température, généralement, ils ne survivent pas, ils ne s'adaptent pas. Un peu comme nous, hein, d'ailleurs. Sauf que nous, l'amplitude de température qu'on peut supporter, suivant si on est habillé ou pas, comment on s'adapte, elle peut varier de bien nombreuses dizaines de degrés. Ce n'est pas le cas de l'eau pour un ornithorynque. Donc, voilà, je mettrais fort à parier qu'en fait, ce pauvre animal est mort d'un choc thermique prolongé.
On s'arrête là pour aujourd'hui sur cette diplomatie de l'ornithorynque. Elle est donc un échec quant à l'envoi d'un ornithorynque destiné au Premier ministre britannique Winston Churchill. On verra dans la deuxième partie que des Australiens ont fini par réussir à envoyer un ornithorynque à des amis étrangers. Mais ça, ce sera dans quelques jours, dans la seconde partie de cet épisode. À très bientôt.
SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement sur sbs.com.au/French ou téléchargez l'application SBS Radio.